Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de David Nissim Baruch ben Esther Ifrach, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, le 10 Adar. La question de Rouven.
Est-ce que la Torah est. On peut la comprendre de manière un peu misogyne? Ou est-ce qu'elle est misogyne?
Est-ce que la Torah est misogyne? Alors, je dirais au contraire. Je pense qu'au niveau. Même tout niveau, mais religion ou non religieux. Au niveau des religions, c'est certainement la religion qui met le plus la femme sur un piédestal, qui la protège le plus, qui. On fait vraiment une reine, contrairement à des arguments, et je vais contre-argumenter maintenant justement ces arguments. Et si on parle au niveau non religieux, donc occidental, alors là, la femme, elle a été ratatine en petits morceaux. On a soi-disant, on lui a donné la liberté, l'égalité, et en fait, on a fait une femme objet. Elle n'est que ce qu'elle représente au niveau de son corps et de sa beauté. Voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Sois belle et tais-toi, quoi. C'est à peu près ça. Au niveau des médiatiques, on va dire. D'accord ? On vend beaucoup cela et on voit que dans le monde, on va dire, non religieux, un homme normal ne pense qu'aux femmes, non ? À moins qu'il soit homo ou autre chose de ce genre-là. Voilà quoi. Donc, et si les femmes imaginaient comment les hommes pensent sur elles, ben, elles s'en feraient en courant. Si on veut vraiment déprécier la femme et en faire un morceau de chair, d'accord, un appareil à plaisir de l'homme et pas beaucoup plus, c'est vraiment l'optique occidentale de la femme. Le reste, l'optique d'autres civilisations, que je pense c'est pas mieux non plus, elles sont vraiment primées. Le reste, c'est les grandes religions. Et il n'y a aucune religion qui met en un système de protection. Elle a bien besoin, par rapport aux hommes qui sont tellement tordus, d'accord, de protection et de respect et d'estime de la femme, plus que la religion juive. Il n'y en a vraiment pas d'autres. Alors, il y a des questions qui reviennent toujours, du genre, pourquoi est-ce que le matin, dans les bénédictions matinales, Berkot HaShachar, alors les hommes font remercier Hachem, chez l'Oasé Nishak, n'ont pas fait femme. Et les femmes disent « Merci que tu m'as fait d'après ta volonté. » Alors, il faut comprendre les choses. Une femme a moins d'obligations, moins de mitzvot qu'un homme. Elle est dispensée de toutes les mitzvot positives. On a des lois négatives, ça, toutes les femmes sont concernées par cela. On a des lois positives. Toutes les lois positives dépendant du temps, les femmes en sont dispensées, à part quelques cas exceptionnels. Par exemple, la soukha. Le loulav, parachat Zachor, qui douche parce que justement, vu qu'ils ont l'obligation de ne pas transgresser Shabbat, donc l'obligation aussi du qui douche. Il y a certaines exceptions. La matzah, par exemple, c'est une loi positive dépendant du temps, mais elle a l'obligation parce que ça dépend du hametz. Vu qu'elle a l'intention de manger du hametz, donc elle a l'obligation de manger de la matzah. Les tfilines, le tzitzit, etc. D'accord ? Alors maintenant, il faut comprendre que le but des mitzvot, c'est de nous parfaire. Plus l'homme a des mitzvot, plus il se parfait, il arrive à un état de perfection divine que Dieu nous demande d'avoir. Si quelqu'un a moins de mitzvot, ça signifie tout simplement qu'il est plus parfait. La femme, elle est plus parfaite que l'homme. D'ailleurs, pas besoin de faire une étude sociologique là-dessus, ça se voit. Comme je répétais là, je vais dire déjà plus en secours, mais je répète, d'accord, les hommes sont des grands, grands, grands tordus. Sur le terrain, d'accord, quelqu'un qui ne s'est pas travaillé, qui ne s'est pas changé avec ses mitzvot, c'est marqué que Yetzer Adam ramené au Rav, le penchant de l'homme est mauvais dès sa jeunesse, c'est pas un travail considérable pour s'améliorer, alors il devient un fauve. Alors extérieurement, et avec son col blanc et sa cravate, il est bien un type sympathique, mais avec sa femme, c'est un vrai fauve, terrible, d'accord, terrible, coléreux, narcissique, vindicatif, pardon,
macho,
tout ce que tu veux, d'accord, pervers, vicieux, tout ce que tu veux. Mais évidemment, extérieurement, très gentil, tout ça, si on entend qu'il y a des problèmes, bien sûr, c'est sa femme qui est responsable. C'est très intéressant de voir que quand on propose à des couples qui ont des problèmes de se faire aider, la femme est partante, l'homme n'est jamais partant. Moi, j'ai aucun problème. C'est toi qui as des problèmes. Tu parles tordu de finité, bien pire que ta femme, d'accord. Il veut même pas éventuellement penser qu'il a un problème qu'il devrait régler. Alors, il veut même pas se faire aider. Espèce de gros monument d'orgueil, d'accord. Alors, quand nous remercions Hachem de ne pas avoir sa femme, ça veut dire que nous remercions Hachem qui nous a fait un niveau inférieur que la femme, nous permettant d'avoir une grande amplitude de travail à faire. Vu qu'on est tordu, on part de beaucoup plus bas, donc pour accéder à une perfection, il nous faut beaucoup plus de travail. Ça veut dire qu'ici, on explique que la femme est bien mieux que l'homme. Preuve en est qu'elle a beaucoup moins de choses à faire pour avoir la perfection. C'est vrai que la femme, par exemple, elle a plus, marque la femme a plus de bina que l'homme. La bina, hein, c'est une sorte d'intuition, d'intelligence pratique. Très souvent, l'homme, il est dans ses rêves, dans ses trucs, il ne voit pas des choses que la femme voit très très simplement. Elle lui dit, mais tu trompes là, ça ne va pas marcher. C'est marqué que la femme a beaucoup plus d'intuition avec les invités aussi. Elle sait voir quelqu'un, hein, elle cerne très rapidement, alors que nous, on va comme des gros bêtas aveugles. Donc, au contraire, la femme est bien plus parfaite que l'homme. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte qu'elle s'occupe plus de l'éducation des enfants, parce que si on devait nous éduquer les enfants, ils sortiraient encore plus tordus que ce qu'ils sortent déjà comme ça. Quel cas encore sur quoi on prétend que la Torah est misogyne? La Torah a mis en place, au contraire, dans le couple, d'accord, l'homme, lors du mariage, s'engage. Il a un ktouba. La ktouba, c'est un engagement de sa part. Et chez Sfaradim, il fait même un serment grave au nom de Dieu de pratiquer tout ce qui est écrit dans la Ktouba. Il doit l'honorer. Il a juré, on ne jure jamais. Un juif ne jure jamais. D'ailleurs, je vous rappelle en passant, vous enlevez le mot jurer de votre lexique. Ça n'existe plus, d'accord? On ne dit jamais ce mot-là. Il y a une seule fois où on jure, sous la Chuppa, les Sfaradim, en Israël en tout cas, d'honorer sa femme, la respecter. Si c'est en Israël, il ne peut pas quitter Israël sans son autorisation. Il va aller faire un voyage, je sais pas moi, il va aller voir comment c'est pour le Maroc ou pas. Elle veut pas, tu sors pas. Tu as juré. D'accord? Pardon? Ça, c'est la coutume en Israël de la Ktouba. Je sais pas comment ça se passe en France. Je pense pas qu'on les fait jurer en France de ne pas quitter la France sans son autorisation. D'accord? En tout cas, vu qu'on connaît à quel point les hommes sont tordus, il y a donc une grande série d'engagements que l'homme a envers la femme, qu'il prend sur lui lors du mariage, qu'il est obligé de faire et qu'il jure de faire. Les gens posent la question des fois, comment se fait-il que pour le guet, l'acte du mariage, l'acte de divorce, alors ça dépend de l'homme. Oui, pour des raisons cabalistiques que je peux expliquer maintenant. Lorsque l'homme fait un acte de kiddushin, de consécration de sa femme, et que sa femme devient sa femme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'on a un papier, on est marié, d'accord? Ça, c'est des bêtises. Ça. Il y a un truc qui se passe. Il se passe que l'âme de l'homme va, et à l'instar de l'abat qui entoure le doigt que l'homme met à sa femme, d'accord? Une partie de son âme, ce moment, passe chez la femme et entoure sa femme. Comme ça se passe au niveau mystique. Donc maintenant, il s'avère que l'homme a une partie de son âme chez sa femme. Maintenant, si il veut divorcer, il est nécessaire que lui reprenne cette partie d'âme. C'est comme ça. Vu que c'est lui qui s'est passé chez lui, c'est mystique, c'est une réalité mystique, donc c'est lui qui lui a donné l'acte de divorce à sa femme. Maintenant, il y a des cas où il ne veut pas. Il dit, je veux bien, vous me donnez 100 000 dollars. Alors, dans ce cas-là, on va au tribunal rabbinique, qui lui dit, tu donnes s'il te plaît le guet, sans discuter. Il dit, non, je ne donne rien du tout. Alors, il reçoit de la part du tribunal rabbinique un statut de servant guet. Servant guet, quelqu'un qui a refusé de donner le guet. Du moment qu'il a ce statut-là, alors tous les moyens sont bons pour le forcer à faire cela. La Gemara, elle dit qu'on le fouette, on le tape. C'est marqué qu'il doit donner le guet que s'il dit, que s'il est d'accord. Il dit, je veux pas, je suis pas d'accord. Pas de problème, amenez-le. Ting, t'es d'accord? Non. Ting, on le tape comme ça. À la fin, il dit, c'est bon, j'arrête, j'accepte. Alors comment ça se fait? Il doit être volontaire. Alors c'est comme un jeune homme ici à l'Yeshiva le matin qui veut pas se lever. D'accord? Alors, on lui dit, écoute, si tu manges, tu ne te lèves pas, tu seras privé de dessert, rien à faire. Si tu te lèves pas, tu seras privé de dessert pendant une semaine, rien à faire. Si tu ne te lèves pas, tu n'auras pas les grillades de pourri, bon, rien à faire. Si tu ne te lèves pas, je te confisque ton portable pendant une journée. Il sait tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il veut se lever. C'est un bon juif, il a le neshama, il veut les prier, il veut faire tout. Mais il est fort, d'accord. Alors, on ne va pas parler à lui. Parce que quand on parle à lui, il aimerait bien, mais il n'a pas la capacité. Alors, on parle le langage du Yetzer Hara. Yetzer Hara, c'est le corps, d'accord. Le corps, tout ce qui l'intéresse, c'est les intérêts. Le corps est intéressé, il a une échelle de valeur qui est plaisir, souffrance. Alors, Il recherche le plaisir maximal et fuit la souffrance au maximum. Maintenant, si pour lui, c'est une souffrance, on va dire, de 100 billes, d'accord, se lever le matin. Alors, je lui dis, tu n'auras pas de dessert. Lui, très rapidement, il fait le calcul. Bon, pas de dessert, c'est 10 billes que je perds. Là, je perds 100 billes, je reste au lit. Toute une semaine, allez, 50 billes, 100 billes, je reste au lit. Pas de portable, c'est 1000 billes. Voilà, il se lève tout de suite. D'accord. Lui, il regarde où est l'intérêt pour le moins de souffrance. Mais en fait, il veut se lever en lui. Il est avec le guette. On va, on l'enferme. On le tape, à la fin il dit je veux et il donne, d'accord? Alors, c'est un choix parce qu'on dit que lui, vu que le Bédine a statué qu'il devait donner le guet, lui il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut empêcher ça. À l'intérieur il est bon. Mais là, il a des mauvaises idoles. C'est ça qu'il faut casser. Alors on lui casse, on l'aide, comme un petit enfant. Un petit enfant, hein. Ils sont bons les enfants. Mais des fois ils font des bêtises. Tu leur parles, il n'est pas capable de se retenir. Alors tu vas l'aider. Tu vas l'aider, tu vas le convaincre, tu vas dire, ou tu vas même des fois le menacer, d'accord? C'est pour l'aider à faire le bon choix. Là aussi, donc, si le mari ne veut pas donner le guet à la femme, et le tribunal rabbinique considère qu'il doit le donner, alors on lui donne ce statut-là, et dès lors, tous les coups sont permis. D'accord?
Même à notre époque actuelle?
À notre époque actuelle. Alors, le problème, c'est qu'à notre époque actuelle, le Bédine, il n'a aucun pouvoir. Mais j'ai déjà tout dit. Il faut être intelligent. Je ne peux pas dire plus que cela, mais les gens intelligents comprennent comment on fait. D'accord? Pardon?
Comme vous avez dit, on peut menacer, on peut faire nuire pour les enfants. On ne peut pas que les tarifs pensent qu'on peut battre les enfants pour. Parce
qu'ils pas les enfants, pas les enfants. Grâce à Dieu ne plaise, les enfants, on n'a pas le droit de les frapper, à Dieu ne plaise. En Israël, celui qui frappe un enfant, il va 7 ans en tôle, en prison. D'accord? Donc on ne frappe pas les enfants, ça lui était, c'est terminé. Oui. Mais par contre, les maris. Vilains qui ne veulent pas donner le guet à leur femme, je ne dis pas ce qu'il faut faire, je mets 3 points de suspension et vous me comprenez. Oui.
J'ai entendu dire que maintenant, quand ça fait plus de 500 ans que le mari refuse de donner le guet, apparemment, le tribunal rabbinique qui le donne.
Non, impossible. Non, c'est impossible, c'est le mari qui lui a donné ça. Mais on fait en sorte que. C'est pas compliqué. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore de misogynie, Ruben, soi-disant, misogynie? En tout cas, moi je peux dire que dans les couples orthodoxes qui fonctionnent après la Torah, et je répète, qui fonctionnent après la Torah, c'est pas tout le monde, c'est pas parce que tu as une barbe, un chapeau et une redingote noire que tu es devenu un bon mari gentil, mais quelqu'un qui sait travailler avec ses midot, d'accord? Le but du mariage, la Torah dit « Lo tov heyot adam levado », ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il y a de pas bon? Il ne pourra pas être bon. Le couple, la raison du mariage, parce qu'en fait, à la base, l'homme et la femme étaient réunis et Dieu sépare en deux. Pourquoi? Pour qu'il devienne bon. Parce que s'il était un homme unique, il aurait pu rester égoïste. Lui et sa femme, le groupe Adam qui est lui et sa femme. Dieu ne veut pas que l'homme soit égoïste. Il veut l'obliger à être un homme bon, qui donne, qui s'écrase, qui est humble, qui accepte la vie contraire. D'accord? Donc en fait, tout le but du mariage, c'est arriver à devenir un homme. Je ne dirais pas comme un ange, plus qu'un ange, d'accord? D'une gentillesse, la gentillesse. Ça, c'est le but de l'opération d'après la Torah. Donc, il n'y a aucune religion qui va autant mettre l'accent sur la nécessité et le but ultime, d'accord, de l'être humain, de devenir bon, et bon le plus avec sa femme. Il y avait un des grandes générations de la génération passée, c'est pas le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Tzatzal, d'une gentillesse terrifiante. Il faut dire à quel point il était sensible. Sa femme est décédée à l'hôpital et il descend les escaliers. Il vient apprendre que sa femme est décédée. Et tout coup, il y a un ancien élève qui m'a dit « Kvodarav, mazal tov, j'ai un enfant qui est né. » Il lui fait un grand sourire. « Ah, je suis content pour toi, mazal tov. » Il lui dit rien. Le pauvre, il vient de perdre sa femme, qu'il adorait. D'accord? Alors un élève dit « Mais comment ?» Après, on lui dit « Mais comment vous le... » Mais pourquoi est-ce que moi, parce que je suis triste, il faut que lui souffre maintenant. Il a un enfant, il est heureux. Ben, je le félicite avec un grand sourire. T'imagines la puissance du type. Alors un jour, il rentre chez lui à la maison, un élève l'accompagne, et avant de sonner à la porte, il regarde bien si tout va bien, comme ça, et il s'explique comme ça. L'élève dit, mais écoute, tout va très bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je rentre maintenant chez moi, je vais rencontrer la shrina, la présence divine. La femme, dans la maison, elle correspond à la présence divine. Comment je peux ne pas me préparer? Et comme ça, il rentre à la maison. Quelqu'un qui considère que sa femme, c'est la présence divine, il regarde qu'il est bien, comment il est. Encore du décès de sa femme, d'accord, quand on va enterrer le corps, alors on fait des oraisons funèbres. Et la coutume est qu'on demande pardon, le mort est là, on demande pardon, il entend son âme présente, on demande pardon pour tout le mal qu'on aurait pu lui faire. Il dit, je demande pardon pour rien. Il n'y a aucune chose à propos de laquelle je dois demander pardon. Je n'ai jamais fait de mal à ma femme. Qui peut dire ça? Qui peut tenir une semaine sans faire une remarque qui embête sa femme? D'accord? Qui? Alors, tu comprends de quoi je parle? Je défie qu'il y ait une autre religion, une autre personne dans le monde comme ça. Je défie. Et c'est un exemple parmi des dizaines de milliers. Donc au contraire, si une femme veut être respectée, qu'elle est une orthodoxe, et prendre un bon mari qui sait bien travailler, pas tous, il y a des tordus aussi dans le monde orthodoxe, mais qui sait bien travailler au niveau des midot, elle sera la femme plus heureuse du monde. Amen.